Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, banlieue française. Pourquoi répète-t-il toujours les mêmes erreurs? Histoire d'un échec. Avec notre invité, le journaliste de Télérama, Xavier de Jarcy. Il signe aujourd'hui Les Abandonnés. C'est chez Albin Michel. Il sera notre invité à partir de 12h55. Mais d'abord, le comédien Denis Podalydès joue actuellement dans Fanny et Alexandre du suédois Ingmar Bergman. Mise en scène par Julie Deliquet à la Comédie Française. Mais pas que Denis Podalydès, l'incontournable. Il est tout de suite notre invité à écouter sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Un dîner de Noël, toute la troupe, la famille est réunie, joie, chant, blague. À la mort d'Oscar, lui, sa femme, Émilie, Elsa Le Poivre, quitte la troupe avec ses deux enfants pour épouser l'évêque Edward, Thierry Ancis, dans ce rôle. Un homme beaucoup moins avenant qu'il n'y paraît, autoritaire, pervers, violent. Bonjour à vous, Denis Podalydès.
Bonjour.
Une pièce sur la vie d'une troupe de théâtre, celle de la famille Ekdal, imaginée par Bergman pour Fanny et Alexandre, et qui révèle en creux toute la force du français, la cohésion de cette troupe permanente à laquelle vous appartenez, sociétaire depuis plus de 20 ans. Une troupe en apesanteur qui conjugue la comédie, la tragédie et l'onirisme avec bonheur, dit ce matin Philippe Chevillier, qui était hier aussi à cette première de Fanny et Alexandre. Mais est-ce que cette unité, c'est surtout un fantasme de spectateur? Ou est-ce que vous la vivez dans votre vie de comédien, cet ensemble, la force de cette famille, de cette troupe?
C'est vrai, Julie Deliquet a voulu jouer d'une fusion entre la troupe et des Ekdal, cette famille qui, dans l'histoire de Bergman, dont on raconte dans une première partie la vie dans un théâtre, et de fusionner avec la troupe de la Comédie Française, qui est comme un tremblé de l'un à l'autre, voire même d'un personnage à l'autre, que nous soyons au plus près de nous-mêmes, dans une sorte de spontanéité parfaitement calculée et parfaitement jouée, mais qui permet au public d'avoir une sensation d'ici et maintenant très forte, peut-être plus forte que s'il n'y avait pas cette sorte de règle du jeu fondée sur un long travail d'improvisation en répétition, et même donner la sensation qu'on est toujours en improvisation au moment même où on joue. Donner la sensation presque qu'il n'y a pas de texte écrit nulle part, sinon celui qui sort de nos bouches à tout instant, de façon à capter le spectateur dans cette salle Richelieu qui devient elle-même décor de toute l'histoire. C'est-à-dire que le spectateur fait partie lui-même d'une certaine manière. Il est acteur aussi il est totalement compris, enveloppé. Et puis ensuite, on l'enferme, on l'emmène dans cet évêché où cette famille et ses enfants, Fanny et Alexandre, sont les victimes de du puritanisme de ce terrible évêque. Joué très bien, magnifiquement par Thierry Ancis.
Sur la scène actuellement de la Comédie Française, on retrouve plusieurs générations, ou en tout cas deux ou trois générations de comédiens du français. Vous, dans cette troupe, dans la réalité, vous vous situez où?
Ben maintenant, j'ai l'impression que je fais partie des anciens. Et je suis entré en 97, voyez.
Et quand on est un ancien, on occupe quel rôle dans une troupe?
C'est les autres qui me donnent éventuellement un rôle. Faut pas se conformer à un rôle d'ancien qui existerait de tout temps et se mettre d'un seul coup à donner la leçon, à prendre des airs pontifiants ou faire la morale. Moi, je me sens toujours camarade entre les camarades. Ensuite, parfois, je sens chez un acteur jeune ou qui vient d'entrer dans la troupe une forme de trac, une forme de peur. Là, c'est presque l'ordre du devoir de le rassurer, de veiller à ce que les gens ne se sentent pas seuls au milieu de ce... C'est un grand collectif, la Comédie Française. C'est même une communauté, c'est même une communauté réussie, enfin un communisme réussi, avec une égalité de salaire, avec bon de l'ancienneté, mais c'est vraiment il y a une quantité de règles implicites et explicites. Alors souvent, c'est les règles implicites qui sont parfois les plus dures à comprendre.
Pourquoi ?
Ben parce que c'est les règles non dites, c'est des règles de savoir-vivre, c'est les règles inhérentes à toute société, c'est des règles qui sont, et qui sont très variables, qui tiennent à comment vivre les uns avec les autres, avec nos contradictions, parfois nos désaccords. Voilà, il faut comprendre les... Il y a une certaine finesse du rapport humain qui... Ceux qui sentent ça instinctivement sont évidemment très bien, très vite à l'aise, heureux.
Quand vous entrez à la Comédie Française il y a 20 ans, que vous êtes le nouveau, qui a été ou joué ce rôle de l'ancien pour vous ? Qui a été la figure qui vous a inspiré, voire celui ou celle qui vous a parrainé ?
Ben, c'est drôle... C'était un ancien plus jeune que moi, et très peu ancien en fait à ce moment-là, c'est tout simplement Eric Ruff. Je suis entré, alors je retrouvais aussi des gens que je connaissais du conservatoire. C'était encore une époque où la troupe essentiellement puisait ses réserves au conservatoire. Donc il y en avait comme Nicolas Lormeau, qui était de ma promotion. Il y avait Cécile Brune, que je connaissais très bien. Donc j'étais pas perdu, pas du tout. Et j'étais plutôt bien accueilli, et celui avec qui j'ai fraternisé quasiment tout de suite, si bien qu'on a commencé à élaborer des projets ensemble assez tôt, c'est vraiment Eric.
Eric Ruff, qui est aujourd'hui l'administrateur général de la Comédie Française. On va écouter un extrait des répétitions d'Hamlet. C'est du théâtre dans le théâtre, et c'est actuellement sur la scène de la Comédie Française, dans ce Fanny et Alexandre, mis en scène par Julie Deliquet. Dans cette répétition d'Hamlet, vous, vous êtes le spectre.
Tu es prêt. Je le vois. Maintenant, Hamlet, écoute. On a prétendu que, tandis que je dormais dans mon jardin... Un serpent m'avait mordu et tout le Danemark est grossièrement abusé par un récit forgé de ma mort. Mais toi, sache-le !
Oui, la terreur, tu dois être complètement terrorisé. Plus j'approche de toi, peut-être j'aurai un maquillage là, peut-être j'aurai des pustules, tout ça, je sais pas, mais peut-être. Oui, c'est ça. Et alors attends, je vais te tourner comme ça, là, comme ça, on va, toi, sur toi. Qui sert
Le serpent qui a mordu ton père.
Serpent qui a mordu ton père mortellement porte aujourd'hui sa couronne.
Oh mon âme prophétique.
Oh mon âme. Vas-y, et là, pars. Oh mon âme. Oh, tu dois être. C'est un soulagement gigantesque. Il a enfin compris pourquoi il le détestait tant,
d'accord,
ce type Claudius.
D'accord.
Tu vois. Et donc il y a une joie macabre.
D'accord.
Oh mon âme. Et vas-y, pars dans le fond. Je crois que j'ai sauté plein de choses, mais c'est pas grave, c'est pas moi qui... On travaille, c'est Peter qui travaille là, c'est très bien.
Où est-ce que vous voulez reprendre?
Je sais pas, là, ici.
Hamlet fait partie, on l'imagine, de Denis Podalydès, de vos fantômes de théâtre. Vous l'avez interprété dans une mise en scène en 2013 de Dany Emmett. Il y a qui d'autre dans votre placard? Quel autre fantôme qui sont importants pour vous? Ces rôles qui ont vraiment compté?
Des rôles ou des personnes?
Des personnes, ça peut être d'âge.
Il y a, oui, il y a quantité de fantômes bienveillants, familiers, dont on fait un peu ce qu'on veut, que c'est une présence tutélaire. Là, tout à l'heure, vous me demandez quels anciens, et puis j'ai pensé à Roland Bertin. C'est un acteur avec qui que j'ai adoré, grand, immense acteur, et aussi qui m'a accueilli aussi. Quelquefois, c'est très simple, d'ailleurs, c'est un mot tout simple. Je suis content que tu sois avec nous. Une petite phrase comme ça, dite à un jeune comédien, souvent celui qui l'a dit, n'accorde pas une importance extrême, et celui qui l'entend, ça peut orienter toute son existence pendant une longue période. Donc il y a des gens comme ça, il y a des rôles, bien sûr. Hamlet, c'est aussi une très longue... je suis comme beaucoup d'acteurs, c'est une pièce que j'ai lue très jeune, et comme tout jeune acteur, j'avais rêvé de jouer Hamlet. C'était le rôle des rôles, une sorte de phare parmi tous les rôles. Même si d'ailleurs on ne le joue pas, ça. Donc, et puis il y a eu le Révisor, pareil, comme rôle, Gogol, le théâtre russe, parce que j'ai un metteur en scène aussi, Fomenko, La forêt d'Ostrovski, qui était un spectacle, là, tout le spectacle, avec les partenaires, avec Michel Vuillermoz, avec les uns et les autres. Tout ça, effectivement, mais je sais, enfin, ça, ce ne sont pas des fantômes pesants, et de ne pas les faire subir aux autres. Nos fantômes sont les nôtres, et on ne peut pas les imposer aux autres.
On peut les incarner, les revisiter.
Oui.
Vous évoquiez, on l'entendait dans cet extrait, une répétition, la perte de mémoire aussi, les blancs, la reprise. Là, on est sur scène, dans une vraie représentation, mais on voit aussi le travail du comédien à sujet. Je vous propose d'écouter les mots d'Éric Ruff, dont vous parliez à l'instant.
La maîtrise et l'immaîtrisé sont des notions fondamentales que j'adore maintenant. Quand j'étais jeune acteur, j'étais très angoissé. Je me flagellais si j'oubliais un mot, si j'inversais une parole, etc. Maintenant, en vieillissant, quand j'ai un trou de mémoire ou quand je me gourre, c'est presque un signal que je suis en train de jouer et de faire véritablement mon métier. Donc je suis presque fier d'avoir des trous maintenant. C'est un peu absurde, mais j'ai beaucoup appris de Denis Podalydès, qui est quand même un type d'une carrière absolument extraordinaire, d'une prolixité, d'une polysémie absolument extraordinaire. Et Denis, quand je l'ai connu, je me disais, où ils sont plusieurs, où c'est un monstre d'organisation. Et quand je me suis aperçu, Denis, que la troisième fois, il voulait me raccompagner en voiture alors qu'il était venu en vélo, je me suis aperçu que c'était un professeur tournesol, donc c'était pas un monstre d'organisation. J'ai dit, mais comment fait-il? Et je me suis aperçu que c'est un des rares personnages qui réussit à se concentrer à la seconde. J'ai appris ça aussi, voilà, dans le... Maintenant, vu mon quotidien, si je commençais à m'angoisser à l'avance, ce serait un mur énorme à passer, je ne pourrais pas. Donc d'une certaine manière, je préfère aller de séquence en séquence en me faisant confiance.
Voilà, Denis cite Éric et Éric cite Denis, mais c'est vrai que c'est aussi la question que tout le monde se pose à votre sujet et elle reste. Comment vous arrivez à vous dédoubler de cette manière-là, à être tous ces personnages à la fois, à changer de masque plusieurs fois, peut-être pas par jour, mais par semaine, par mois?
Moi, je crois que c'est très important. Dans mon cas, c'est l'énergie du désir. Je sens, par exemple, quand je fais... Il y a des moments où je me dis je fais trop de choses, c'est parce que le désir n'est plus à la hauteur de ces choses-là. Il y a moins une baisse du désir. J'ai toujours, en même temps que j'étais à la Comédie-Française, fait du cinéma et du théâtre aussi, en dehors de la Comédie-Française. Et comme la Comédie-Française, c'est quand même 80% du temps, ça donne cette impression de trop plein. Mais néanmoins, j'ai essayé de toujours garder ça, mais par un désir et continu, constant, et qui allait toujours dans plusieurs directions. Le cinéma, la mise en scène d'opéra, la lecture publique, par exemple, voilà, le goût de la littérature et l'écriture. Donc j'ai toujours eu ces goûts différents, et ces goûts m'écartèlent un peu, forcément. Si je veux satisfaire ces désirs, si je veux donner sens aussi à ma pratique, je suis obligé d'aller dans des sens parfois très très différents. Et bon, maintenant peut-être ça me fatigue plus vite, mais pendant des années, je n'éprouvais pas la moindre fatigue à passer d'une chose à l'autre, d'un jour à l'autre, sans aucun jour de congé ou de vacances. Au contraire, je crois que j'y puisais une espèce d'énergie supplémentaire, de fierté aussi. Et comme dit Éric d'ailleurs, effectivement, la concentration dans la seconde, c'est ce qui permet aussi quelquefois et le renouvellement du désir et de garder de la fraîcheur.
En tout cas, il y a un désir ou un goût que vous n'avez pas eu, c'est celui de directeur de théâtre. Et c'est pourtant le rôle que vous incarnez en ce moment dans Fanny et Alexandre. Oscar Ekdahl est directeur de théâtre et étonnamment, donc c'est la seule casquette que vous n'ayez jamais portée. Et pourtant, on vous l'a proposé au moins une fois, voire deux, voire plusieurs, ouais. Sur scène. Ce côté patriarche, chef de bande, il vous va plutôt bien. Dans la vie, c'est une responsabilité dont vous n'auriez pas souhaité être chargé.
Il y a des hasards, j'ai failli parfois, j'étais candidat, parfois j'ai retiré des candidatures, parfois on m'a signifié qu'en fait non, dans un premier temps on me proposait, puis dans un second temps on me proposait plus. J'ai toujours fait valoir que j'étais acteur avant toute chose et que je ne voulais pas renoncer à ça, au fait d'être acteur au théâtre et au cinéma.
Il aurait fallu
Parfois, la charge est si importante qu'il faut mettre en berne sa carrière d'acteur, d'une certaine façon. Je n'étais pas prêt à ça, alors je pense que ça a dû faire parfois aussi reculer. Et je n'ai pas regretté. Dans l'absolu, peut-être, oui. diriger un théâtre est une chose qui m'aurait plu, mais c'est peut-être probablement trop tard maintenant.
C'est une fonction que Bergman, lui, a occupée de Helsingborg à Stockholm. Et c'est cette année le centenaire de sa naissance. Il va faire son entrée au répertoire de la Comédie-Française avec ce texte qu'il avait lui-même adapté en série pour la télévision, au cinéma, aussi dans un film testamentaire. Ce fils de pasteur qui a été très influencé, il le dit lui-même, il l'a dit à plusieurs reprises, par Strindberg. Est-ce que vous retrouvez dans cette pièce, enfin dans ce texte adapté aujourd'hui par Julie Deliquet, une part autobiographique?
Oui, je pense aussi que d'ailleurs le travail en amenant les personnages au plus près de nous-mêmes, en finalement les explosant comme personnages, c'était nous-mêmes. Il fallait que ça devienne qu'Oscar, que je sois Oscar, et sans se poser une question d'une distance entre soi et le personnage. Et donc forcément, ça devient des petits autoportraits. C'est différent. Je ne peux pas m'empêcher, même si je sais qu'il ne colle à l'arrivée, il ne colle pas avec leur personnage. Hervé, de Gustav Waldorf, ou Laurent Stocker, dont nous faisons trois frères, et je me sens d'ailleurs très proche, très fraternel avec eux. Donc je ne peux pas m'empêcher de les voir eux-mêmes.
On l'écoute.
Ingmar Bergman, est-ce qu'il y a une grande différence pour vous entre la mise en scène de théâtre et la mise en scène de cinéma?
Ah oui, c'est très une grande différence. Mettre en scène de théâtre, c'est une profession. C'est mon profession et c'est nécessaire pour moi. Et mettre en scène de film, c'est mon passion.
Votre passion, votre grand plaisir. Eh bien, nous attendons maintenant avec impatience votre saga. À bientôt, nous allons aller vous applaudir.
Merci, monsieur.
Ingmar Bergman en 1959, Bergman, cinéaste exigeant, qui se voyait d'abord comme un homme de théâtre, lui aussi, ne construisait pas de mur, c'est ce que vous évoquiez, entre les disciplines. Et vous diriez exactement comme lui aujourd'hui, le théâtre est mon métier, le cinéma c'était ma vocation.
Là, il dit c'était ma passion.
Ma passion.
Ouais. Je trouve ça très touchant, parce que c'est vrai, il répétait dans l'année, il tournait l'été. Donc le cinéma était lié à l'extérieur, à l'été, à un certain temps de vacances. Je pense que ça devait peut-être moins lui coûter. La mise en scène de théâtre, ça dure 2 mois, et j'ai l'impression, même si c'est très difficile de réaliser un film, que le fait de répéter une pièce enfermée dans une salle de répétition, où vous avez une quantité de choix, de décision à prendre, j'ai le sentiment que c'est plus difficile que le cinéma, mais il faudrait que je fasse un film pour m'en rendre compte, mais j'ai l'impression que là, par exemple, la direction d'acteur au théâtre, c'est une question très, très difficile, très longue, y en a-t-il pas, alors qu'au cinéma, il y a quelque chose qui se, le cadre, le choix, le lieu où on tourne, tout ça fait la moitié du travail. J'ai cette impression-là. Il me semble que ça va beaucoup plus vite. Je pense que n'importe quel réalisateur, là, me sauterait au bec en me disant, mais pas du tout, c'est extrêmement difficile, c'est très angoissant parce que ça coûte tellement plus cher. On est obligé, à la fin de la journée, d'avoir fait ce qu'on a prévu. Alors qu'au théâtre, on peut dire, bon, cette scène-là, on n'y arrive pas pour aujourd'hui, on va reporter ça demain. Et ça ne coûte pas plus. Donc, c'est vrai. On a une responsabilité financière qui est un peu écrasante au cinéma. Mais, d'avoir des acteurs dans un lieu clos et d'essayer pendant 6 heures de créer de la vie tous ensemble, il me semble que c'est parfois beaucoup plus difficile. C'est pour ça que je comprends Bergman qui dit ça au cinéma. Il y a un ici et maintenant. C'est tout de suite. C'est maintenant. Je pense que dans sa tête, c'était extérieur intérieur. Il était dehors pour faire du cinéma. Si on voit Monica, des films comme ça, ou un film que j'adore, qui est très inspiré de Songe d'une nuit d'été, mince alors, vous pouvez pas, avec Gunnar Bjørnstrand, avec tous ces... C'est une comédie érotique d'une nuit d'été. Non, ça c'est Woody Allen, mais c'est un comme ça.
Débrouillez-vous.
Comédie d'une nuit d'été, non? Vous voyez pas?
Non.
Non, et c'est un film d'extérieur, vous sentez qu'ils s'amusent tous comme des...
Sourire d'une nuit d'été ?
Sourire d'une nuit d'été,
sourire,
voilà.
Sourions. Pas intérieur. Ça vous fait tousser.
Excusez-moi, non, c'est la bronchite qui me tenace.
À la grippe, vous avez entendu le message.
J'ai entendu,
avant l'ouverture.
J'ai tout noté.
Vous savez ce qu'il faut faire. Allez vous laver les mains juste après.
Oui, j'aimerais bien. Il faudrait que vous savez, des petits.
Du désinfectant.
Désinfectant.
Pas de frontières intérieures.
Non. Il devrait y en avoir.
Il faut juste oublier de me serrer la main à moi en partant.
J'ai dû laisser.
Oui, des traces sur la moquette du studio.
Voilà, quelqu'un va venir.
Ouais. Et ben voilà, on verra qui est le prochain, mais on lui passera le message. Extérieur, intérieur, Denis Podalytès. Pas de frontière aussi entre la vie et la scène pour Bergman et pour vous. On l'entend dans ces mots d'Edvard à sa femme Émilie quand elle le quitte. Tu as dit un jour que tu changeais sans cesse de masque au point de ne plus savoir qui tu étais. Moi, je n'ai qu'un seul masque, dit-il, mais il reste collé à ma chair. Et si j'essaye de l'arracher, trois petits points, vous arrivez à vivre avec tous ces masques et à toujours savoir qui vous êtes.
Oui, ça je trouve que le cerveau est très bien fait. Ce sont des dossiers tout à fait étanches les uns aux autres. Je n'ai jamais confondu une pièce avec une autre. Je n'ai jamais confondu une réplique d'une pièce avec une réplique d'une autre pièce. Peut-être Molière, parce que lui-même se pillait lui-même. Et donc il y a des répliques qui... Mais bon, ça m'est même jamais arrivé, même avec Molière. Je sais très bien... où je suis, ce que je fais, ce que j'ai à faire au moment où j'y suis. J'ai aucune schizophrénie, même pas émotionnelle. Une représentation est terminée, elle est terminée. Je peux être tout à fait prêt pour autre chose. J'ai des projets en tête et eux-mêmes, je ne les confonds pas. Et je sais que arrive telle date où je dois réactiver un rôle, par exemple, comme ça est le cas dans quelques semaines avec les damnés.
Jeu de masque et de travestissement aussi dans Lucrèce Borgia de Victor Hugo que vous avez mis en scène et qui est actuellement repris à la Comédie Française jusqu'au 1er avril avec cette fois Elsa Le Poivre dans le rôle titre quand vous l'avez créé, c'était Guillaume Gallienne.
Oui.
Ce qu'il y a de très beau dans ce Fanny et Alexandre, c'est aussi cette réhabilitation du mensonge. On ne ment pas seulement pour obtenir davantage comme il est dit dans la pièce, on ment aussi pour rendre la vie plus belle. Le mensonge, c'est aussi ce qui est au cœur du théâtre, au cœur de la fiction. Et dans cette pièce, Bergman plonge dans ses souvenirs d'enfance, le temps de l'innocence, celui de l'imagination, contre l'austérité du réel, la rudesse du monde adulte. On a envie de comprendre quel enfant vous étiez, mais au-delà de ça, est-ce que l'enfance pour vous, Denis Podalydès, c'est un coffre à émotions dans lequel vous allez régulièrement puiser?
J'y suis souvent ramené. C'est souvent le fait de travailler avec mon frère Bruno fait que quand on sort un film, par exemple, on est ramené à cette enfance, même si on n'est pas sans arrêt dans l'évocation de nos souvenirs d'enfance. Et je sais que j'ai peut-être quelque chose d'enfantin, peut-être même d'infantile dans ma pratique, qui fait que au cours des années, on m'a souvent ramené à l'enfance. Et on demande souvent aux acteurs ça. On les ramène souvent à leur enfance. Beaucoup de gens associent le métier d'acteur au jeu, qui dit jeu, dit enfance. Et ce qui, avec des sous-entendus d'une certaine irresponsabilité, trop de légèreté, et qu'il faudrait en même temps cultiver pour rester frais, pour rester inventif, drôle. Je ne sais pas exactement quoi faire. Quand j'écris, je puise très souvent une énergie d'écriture dans l'enfance, ça oui. Dans le jeu, je crois que j'ai toujours un même plaisir enfantin à jouer. Ça c'est vrai, mais j'essaie en tout cas, sans doute le fait d'être père de famille, et d'avoir été père de famille sur le tard, qui fait que je place ma propre enfance très nettement à distance. J'essaie en tout cas de ne pas la faire valoir plus qu'un autre. Pourquoi mon enfance serait-elle plus intéressante que l'enfance des autres, du fait d'être acteur, du fait que l'imagination, l'invention, et ce que d'autres peuvent appeler le mensonge, joue un rôle si important, effectivement, dans mon métier. Mais je pense, avec l'enfance, on fait parfois... ça peut tout excuser, l'enfance. J'ai été un enfant triste, j'ai été un enfant ceci, cela, donc ne m'en veuillez pas. Je suis toujours ce petit enfant, ne me tapez pas. Il y a des quantités d'arguments qui peuvent être extrêmement agaçants liés à l'enfance.
Comment Julie Deliquet prend-elle la relève de Bergman dans ce Fanny et Alexandre? Quel regard, voire modernité, apporte-t-elle dans sa version scénique du roman et du film? En quelques secondes, vous arriveriez à identifier cela, Denis Podalydès?
C'est très difficile. Ce qui m'a passionné dans le travail, c'était quelqu'un qui a une méthode, des outils, voire un vocabulaire qu'elle utilise, sur lequel elle se fonde entièrement pour organiser les journées de travail. Avec une sorte de passion du réel, de folie même du réel. C'est-à-dire, et elle a un critère, j'y crois ou je n'y crois pas. C'est réel ou c'est pas réel. Et si c'est du théâtre, alors ça vaut pas le coup. Alors qu'on est en train de construire un spectacle de théâtre. Et elle soumet aussi l'œuvre. Son but n'est pas tant, comme on fait pour une pièce classique où on essaie de restaurer son sens et de le rendre vivant, de retrouver le sens, les intentions de la pièce, etc. Là, c'est de créer avec la pièce un moment qui sera un moment de vie intense où le spectateur aura la sensation de l'ici et maintenant, sensation d'avoir affaire pas seulement à des personnages de fiction, mais à des êtres en train de faire vivre sous nos yeux cette fiction. C'est une sorte de surenchère dans l'effet de réel, voilà.
Et on entend un extrait de la musique originale composée pour la pièce Fanny et Alexandre de Bergman, mise en scène par Julie Deliquet. C'est à voir actuellement à la Comédie Française jusqu'au 16 juin. Musique un peu tragique et l'occasion juste d'évoquer aussi le fait que vous allez reprendre le texte « Ce que j'appelle l'oubli » de Laurent Mauvignier le 24 février dans le cadre du festival Paroles Citoyennes. C'est un texte très fort, sans ponctuation, qui vous demande beaucoup de souffle et qui repart d'un fait divers violent, celui d'un homme qui a été battu à mort après avoir volé une canette de bière. À voir donc le 24 février dans le cadre du festival Paroles Citoyennes. Merci beaucoup à vous, Denis Podalydès.
Merci à vous.
Merci mille fois.